votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h avec Sébastien Krebs.
Et je salue les grandes voix qui se sont installées dans le studio d'Europe 1. Bonsoir Michel Cotard.
Bonsoir.
Bonsoir Gérard Carrérou.
Bonsoir.
Et bonsoir Charles Villeneuve.
Bonsoir.
Vous êtes tous les trois avec nous jusqu'à 20h pour commenter l'actualité de la semaine. Benjamin Muller est aussi avec nous. Salut Benjamin.
Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous.
On va faire le bilan du grand débat, tiens, justement avec les grandes voix dans un instant. Vous, le bilan du grand débat, vous le faites à votre sauce.
Eh oui, ça y est, c'est déjà fini.
Le grand débat national, cette fois, c'est bien fini. Emmanuel Macron a bouclé hier soir ce grand débat.
Oui, le grand débat, c'est déjà fini. Macron va pouvoir souffler.
Le chef de l'État aura pris la parole presque une centaine d'heures. Tout grand débat cumulé.
Oui, 92 heures pour être précis, soit près de 4 jours consécutifs, et ça s'arrête déjà. C'est long quand même. Premier enseignement, Alain Duhamel sur RTL.
Oui, bah heureusement, parce que tout le monde commence à trouver le temps du grand débat un peu long.
Oui, c'était bien, c'était chouette, mais c'était long. Deuxième enseignement, Jean-Michel Apathy ce matin sur Europe 1.
Beaucoup de choses ont été dites, mais rien de neuf. Rien de génial, rien de bouleversant. Tous les problèmes qui ont été évoqués, on les connaît depuis longtemps. Et c'est même parce qu'on les connaît depuis longtemps qu'on ne les a pas résolus.
Voilà, c'était long, ça ne servira pas à grand-chose. Et ça a coûté cher, 12 millions d'euros pour l'organiser, débat sur RMC ce matin.
Une forme de psychothérapie nationale où chacun est venu déverser sa frustration.
On a été deux ans.
Oui, mais à 12 millions, ça fait cher la psychothérapie.
C'est cher le psy, tu sais.
Oui, mais quand on aime, on ne compte pas. Alors maintenant, la question, ça va être que vont devenir les près de 2 millions de doléances déposées par les Français?
Il y a 2 millions de doléances déposées. Voilà. Hein.
Impossible de restituer correctement.
C'est impossible. C'est mathématiquement impossible. Il faudrait 18 ans avec 800 personnes.
Oui, pas inimaginable donc que certains soient un peu déçus du bilan. Alors, mais bon, il va bien en ressortir quelque chose, non, Nicolas Canteloup, ce matin?
Alors, qu'est-ce qu'il va en sortir? On va en sortir des DVD. Des DVD dans un premier temps. Oui, je sors l'intégrale du grand débat en DVD. 23 DVD et plus 5 Blu-ray de mes meilleurs moments.
Voilà, Sébastien, vous saviez pas quoi faire de votre week-end? Quelle bonne idée! Alors, pour les vrais fans de débat, pas d'inquiétude, puisqu'au moment où ce grand débat se termine, celui des européennes commence. D'ailleurs, hier soir sur France 2, c'était très constructif.
Oui, j'ai apporté l'avion Airbus.
Alors, c'est une baguette de pain, qui est une paire de menottes.
Un chèque. Ce que je vous ai apporté ce soir, c'est du piment d'Espelette. Ça vient du Sud-Ouest, comme moi.
Oui, sympathique, ce moment où chaque candidat pouvait apporter un objet de son choix. Vous l'avez regardé, Sébastien?
Non, je l'ai manqué.
Ah, vous avez raté ce grand débat avec 12 candidats. Ça a duré 3 heures, c'était vraiment sympa, mais étrangement...
Exercice difficile d'un peu plus de 3 heures qui n'a pas passionné 1,9 million de téléspectateurs devant leur poste.
Ça n'a pas passionné, mais pour ceux qui l'ont raté, il y a toujours le replay. Ça tombe bien pour votre week-end là aussi. Sur CNews ce matin, Pascal Praud a débriefé.
Bon, c'était difficile parce qu'il y avait 12 personnes, c'est pas facile. Nous-mêmes, nous allons organiser un grand débat. Il faut saluer nos confrères de France 2 parce que c'est jamais facile à faire. On va le faire le 10 avril autour de Laurence Ferrari et de Mathieu Béliard d'Europe 1.
Alors, Mathieu Béliard. Mais effectivement, le vrai débat qui, celui-là, va passionner les foules, ce sera mercredi prochain, sans piment d'Espelette cette fois.
Merci beaucoup, Benjamin Muller. Bon week-end. Le grand débat, on en parle justement dans un instant avec nos grandes voix. Vous restez avec nous sur Europe 1. Il est 19h26.
Jusqu'à 20h, Sébastien Krebs, c'est les grandes voix d'Europe 1. Michel Cotta, Gérard Carrérou et Charles Villeneuve.
Et on va parler du grand débat ce soir, la sortie du grand débat, puisque ça y est, c'est fini. Emmanuel Macron l'a conclu cette semaine. Comment en sortir justement les défis du président, les difficiles arbitrages, quelles décisions prendre pour en sortir mieux? Qui veut commencer? Michel Cotta, est-ce que le plus difficile, c'est pas justement de le terminer ce débat?
De le terminer, non. De l'examiner, oui. Non, je trouve que finalement, il a eu sa fonction, au fond. Il était celle de faire retomber un peu la pression s'important absolument en s'impliquant dans tout comme il l'a fait pendant 100 heures, bon, etc. Bon, maintenant, en gros, on n'a rien appris de tellement vrai, tellement nouveau, hein, dans ce au fur et à mesure, les journaux ont sorti un peu les quelques mesures qu'on voyait en cause. Bon, il y a le pouvoir d'achat, il y a effectivement le référendum d'initiative citoyenne, mais dont finalement aucun homme politique ne veut, en dehors de Mélenchon, évidemment. Il y a un certain nombre de choses dont il y a l'ISF. Est-ce qu'il va un peu amodier son ISF et bon, voilà, on sait tout ça.
Et 2 millions de doléances, comme le disait Benjamin
Muller. 2 millions de doléances, enfin, il va les classer. Non, le problème est, est-ce que quand il y a autant de mécontents qu'il y a de Français, est-ce qu'on peut sortir quelque chose qui, en tout cas, conviennent à une partie importante d'entre eux. C'est ça le vrai problème. C'est l'archipel français, comme disent les sociologues.
Gérard Carrérou, le plus grand risque finalement, c'est que tout le monde soit déçu à la fin.
Bah, c'est le risque, effectivement, mais j'ai envie de citer Maurice Thorez quand il avait dit « il faut savoir terminer une grève ». Et on sait que terminer une grève, c'est souvent ce qu'il y a de plus difficile. On peut lancer des grèves, mais les terminer en obtenant des résultats, c'est difficile. Bah, c'est un peu la même chose, c'est pour ça que je cite, on pourrait parodier en disant « il faut savoir terminer un grand débat ». Le grand débat, ça a été formidable pour Macron, pour le président Macron, ça lui a permis, alors qu'il était carrément le dos au mur, politiquement, ça lui a permis de revenir, de rentrer dans le jeu. Donc c'était effectivement un succès. Aujourd'hui, les gens, bon, ça va, il y a eu le débat, il y a eu pas mal de monde, même si on peut critiquer, dire oui, il y a quand même eu 1 600 000 personnes, c'est quand même énorme, enfin c'est quand même énorme. Donc, le débat lui-même s'est déroulé, et il s'est déroulé plutôt dans de bonnes conditions. Mais la sortie, c'est autre chose. Et la sortie, c'est ce qui commence lundi. Alors lundi, le Premier ministre au Grand Palais va nous faire le recensement de tout ce qui a été demandé par les Français. Et puis le président de la République, en majesté, va nous expliquer ce que lui a retenu de tout ça. Alors de deux choses l'une, ou bien il y a des décisions extraordinaires, j'ai envie de dire fracassantes, et on dit même à l'Élysée, sidérante. Alors si on est pour être sidéré, va falloir quand même se lever de bonheur. Qu'est-ce qui peut me sidérer moi et quelques millions de Français? Effectivement, c'est si envers et contre toutes les déclarations qu'il avait faites, s'il dit je remets l'ISF parce que j'ai compris que c'était une grosse bêtise, etc. Ça serait sidérant. Il peut dire j'enlève la TVA sur 100 produits important, de première nécessité, ceux qui font la vie quotidienne de millions de gens, ça serait quand même, parce que ça coûterait un paquet de milliards, et puis il peut dire, et quand, je sais pas, alors sur les institutions, je rétablis l'indexation absolue de toutes les retraites. Alors s'il nous dit ça, je dirais chapeau, il a compris qu'il s'était passé un grand bouleversement dans le pays, et il peut s'en sortir plutôt bien. Mais je m'attends à plutôt autre chose. Je m'attends à quelque chose qui soit beaucoup plus riche, enfin, qui soit beaucoup moins important, qui soit un peu rikiki par certains côtés. Et si c'était le cas, alors peut-être qu'on sera entre les deux, entre le fracassant et le rikiki. Mais si c'était le cas des petites mesures, on dirait tout ça pour ça. Ouais. On a perdu des mois pour en arriver là. Et à ce moment-là, la déception serait tellement forte que l'avenir du quinquennat serait largement compromis pour pouvoir éventuellement continuer des réformes.
Charles Villeneuve, qu'est-ce qu'il peut décider? Est-ce que là, en citant ces mesures-là, on est dans la politique fiction?
Là, il y a une dame, qu'est-ce que vous en pensez, qui a fait pas mal de prévisions pendant des années sur cette antenne, Madame Soleil. Moi, pour l'instant, je n'ai absolument aucun dénominateur commun avec Madame Soleil. Donc, je m'avance pas là-dessus. Non, moi, je dis que ce qui est vrai, c'est qu'il est descendu de son Olympe, il a écouté les Français, ça a été une forte participation, c'est un succès sur ce plan-là, on est d'accord. Bon. Mais il est dans la position d'un homme, si vous voulez, qui a contracté un crédit avec des créanciers que sont les Français. Et les Français qui attendent de se faire une idée, celle de savoir s'il a fait fructifier ce crédit, maintenant qu'il va passer à la caisse. Parce qu'il va passer à la caisse. Bon, quelle certitude j'ai, c'est que moi je crois qu'il va caler sur l'ISF, en tout cas il trouvera un arrangement pour augmenter sur le plan immobilier, de la propriété immobilière, mais pas plus loin, parce qu'il sait très bien qu'au fond, ceux qui font le pouvoir d'achat, ceux qui font circuler l'argent, c'est ceux qui en ont, et de toute façon, casser cette dynamique-là, c'est casser tout le reste aussi, et notamment même le pouvoir d'achat. Deuxièmement, je pense qu'il renoncera au référendum d'initiative citoyenne. D'ailleurs, ça n'est pas de lui, ce sont les Gilets jaunes qui l'ont réclamé.
C'était leur principale revendication.
Par contre, il baissera le seuil pour autoriser le référendum d'initiative partagée, qui est à 4 millions maintenant de participants, enfin de citoyens, qui peuvent le réclamer, plus je ne sais combien de parlementaires, il baissera ça du quart, quasi plus du quart, plus de la moitié même, il mettra la limite à 1 million.
Ben si c'est ça, on est à mi-chemin, entre le fracassant et le rikiki.
C'est ce que je voulais dire, c'est encore plus compliqué que ça. Parce que s'il annonce des mesures fracassantes, selon ce qu'a dit Gérard,
il ne peut pas.
Au fond, d'une certaine façon, c'est pas lui qu'on a élu non plus. on se retrouve avec, effectivement, quelqu'un d'autre qui a pris connaissance de ce que pensent les Français, mais qui n'est pas Emmanuel Macron, qui avait été élu. Et donc, être sidérant, c'est d'une certaine façon sidérer aussi sa majorité, parce qu'on l'oublie toujours, il en a une, la majorité. Il a une majorité avec énormément d'éléments de droite, avec, effectivement, une frange de gauche qui s'exprime. Mais s'il perd la droite en même temps, il perd beaucoup, donc il peut être sidérant de ce point de vue-là. C'est-à-dire que sa majorité peut aussi éclater le lendemain où il a annoncé qu'il renonce à un certain nombre de choses pour lesquelles les gens de droite l'ont élu.
Et on va en parler justement des relations avec sa majorité et avec Matignon, puisqu'il y a déjà des couacs sur certains sujets. On en parle dans un instant. Vous restez avec nous, les grandes voix sont sur Europe 1 jusqu'à 20h. A tout de suite, 19h36.
Votre grand journal du soir avec Sébastien Krebs et avec les grandes voix d'Europe 1 le vendredi soir. Michel Cotta, Gérard Carrérou et Charles Villeneuve.
Et on parle de la sortie du grand débat. Comment en sortir? Quelles mesures? Quels arbitrages pour Emmanuel Macron? On le disait, ce qui va être difficile, c'est aussi de satisfaire toute sa majorité, sa jambe droite, sa jambe gauche. On l'a vu ces derniers jours, Charles Villeneuve, des couacs, notamment sur la question de l'âge de la retraite. Ça commence à grincer.
Mais on l'a d'autant plus vu qu'il s'en est fallu de très peu pour que Jean-Paul Delevoye, qui porte la réforme de la retraite, et dont on connaît, si vous voulez, la limite, puisque le président de la République lui-même s'est engagé durant sa campagne à fixer ce départ à la retraite à 62 ans, et il est en but, Jean-Paul Delevoye, qui a mis sa démission dans la balance, il est en but avec Matignon, siège du Premier ministre, avec Bercy, siège des deux ministres de l'économie, des finances, des comptes publics, avec évidemment Bruno Le Maire et Gérald Darmanin. Et comme par hasard, les trois qui sont récalcitrants sur le fait qu'en réalité il faut aller, enfin ils suggèrent d'aller un peu plus loin que 62 ans, ce sont des ralliés de la droite. S'y ajoute bien sûr la ministre de la Solidarité, c'est-à-dire la ministre de la Santé Agnès Buzyn, et qui elle aussi a émis l'hypothèse d'aller un peu plus loin. Pourquoi ? Parce que, évidemment, tous ces ministres sont en compte. Ils ont des arguments pour être récalcitrants. Ils savent que la croissance est inférieure à ce qui est prévu. Ils savent que la dépendance va compter des milliards, c'est-à-dire la réforme que va porter Agnès Buzyn. Et ce n'est pas un hasard si on la trouve justement dans le même groupe, dans le même peloton que ce que j'appelle l'axe des récalcitrants entre le Premier ministre et ses deux ministres des Finances, de l'Économie et des Comptes Publics. Et donc, partant de là, si vous voulez, le problème va se poser d'autant plus que le président de la République, au moment où il va sortir du grand débat, ne peut pas décider n'importe quoi. Parce qu'il y a des comptes.
Et c'est compliqué d'annoncer des mesures coûteuses. Ouais, c'est compliqué d'annoncer de nouvelles mesures coûteuses.
En même temps, là, il a un choix qui est terrible, parce que tous les gens qui sont, je dirais, en dehors de la politique, tous les gens, les sociologues, tout le monde, tous ceux qui regardent, effectivement, disent on ne peut pas tenir si on laisse effectivement l'âge de la retraite à 62 ans. Sarkozy avait pensé à un moment donné le faire jusqu'à 63 ans, puis finalement, pour des raisons d'opportunité face à l'opinion, il a reculé. Bon. Et là, effectivement, si le président de la République décidait de maintenir envers et contre tout 62 ans, je pense
que
ça...
Il l'a promis pendant sa campagne.
Oui, mais pas y toucher. Bien sûr, il a promis des choses, mais là, il est dans une situation...
Il a supprimé l'ISF.
Oui, l'ISF aussi, il l'avait promis. Il est dans une configuration, s'il continuait à annoncer 62 ans, alors que tous les pays d'Europe sont bien au-delà, alors que l'argent nécessaire, tu l'as dit Charles, sur la dépendance, etc., et que effectivement la démographie est contre nous dans cette affaire, la croissance est contre nous dans cette affaire, bien évidemment la raison c'est d'aller à 63-64 ans.
Après c'est dangereux de toucher un tel totem dans le contexte.
Mais l'Allemagne est à 67 ans.
On voit bien comment Delevoye
a raison, été. Mais Gérard a parfaitement raison, d'autant que 79% des Français sont pour le maintien de la retraite à 62 ans. C'est la raison pour laquelle Sarkozy a reculé. Et évidemment, le président de la République ne peut pas aller au-delà de cette limite, d'autant qu'il a promis dans son livre Révolution, c'est l'une des décisions les plus fermes.
Oui, mais il y a d'autres moyens. Il pourrait par exemple insister sur les trimestres. C'est là-dessus,
raison,
évidemment, que Delvoye a accès
à son discours. Qui parle d'une retraite par points et qui par contre pourrait étendre naturellement.
On peut trouver quelque chose de plus intelligent. Mais tout le monde sait que 62 ans, on ne peut pas être les seuls en Europe à être partir à 62 ans. Voilà, tout le monde sait. Alors, est-ce qu'il peut y avoir un calcul de trimestres supplémentaires qui amèneront les gens qui commencent dans la vie active à partir à 65, 66 ans, s'ils commencent à 30 ans? Enfin bon, vous voyez, il y a des autres manières,
oui,
peut-être.
On fera une fiction qui sera l'âge légal restera à 62 ans. Tous les gens qui voudront avoir une retraite à peu près convenable seront obligés de travailler
quand tu viens davantage. Je trouve que ça fait un très mauvais effet, pardon, mais ça fait très mauvais effet dans un gouvernement. Ça fait très mauvais effet que quelqu'un soit nommé, Delvoye, il est là, ça fait 2 ans qu'il fait la même chose. Bon, 2 ans, on ne peut pas dire qu'il aille vite. Bon, c'est vrai que c'est quelqu'un du Nord, assez pesant, assez long, mais enfin quand même. Bon, alors, que de l'autre côté, pendant ce temps-là, partent dans le même gouvernement des gens qui disent non, il faut partir, allons carrément, il faut partir à 63, 64, 65 ans. C'est vrai que cette discorde. Non, mais cette double voie est insupportable.
Ils pourront le faire plus que là.
Moi, cette double voie, ça m'énerve. Il n'y a pas un sujet sur lequel le gouvernement soit d'accord.
Oui,
c'est embêtant.
Oui, mais parce qu'il a affaire à qui ? À des Gaulois. Et tu sais très bien que les Gaulois. Mais cela étant, sur la retraite à points, tu as 54% des Français qui y sont favorables. Au moins, il y a une majorité sur ce plan.
Essayons cette voie-là.
Si vous voulez une retraite convenable, évidemment, pour vivre décemment lorsque vous arrivez au stade des seniors, il faudra travailler plus longtemps qu'on ne travaille aujourd'hui.
C'est pour ça que les 62 ans resteront comme un totem qui, en fait, ne correspondra plus qu'à une sorte d'idéologie.
Voilà. On part à la retraite à 62 ans, c'est le temps butoir. Voilà. Et puis en réalité,
tout le monde continuera. Et d'ailleurs, dans le privé, la plupart des salariés partent déjà au-delà
au-delà de 63 ans, la moyenne.
Bien sûr. Mais,
mais d'autant plus que les Français, il faut le savoir, il faut toujours se le rappeler, dépensent beaucoup plus que tous les autres habitants des pays européens pour leur retraite. Pour 14% du PIB, alors que la moyenne générale de l'Union européenne, c'est 10%. 10%.
Les défis de la sortie du grand débat, on pourrait encore en parler pendant des heures, on va en parler encore la semaine prochaine en voyant ce qu'annoncent Édouard Philippe et Emmanuel Macron. On marque une pause et dans un instant, on parle de la situation en Algérie avec les grandes voix, 19h45.
Et avec vous Sébastien Krebs, les grandes voix d'Europe 1, Michel Cotta, Gérard Carrérou et Charles Villeneuve.
Et on va parler de la situation en Algérie à présent. On est déjà rentré dans l'après Bouteflika depuis quelques jours, puisque cette semaine, le président algérien a acté sa démission après 6 semaines de mobilisation de la rue. Donc c'est une transition qui commence avec la perspective d'élection dans les 3 mois. Et pourtant, il y avait encore beaucoup de monde dans la rue aujourd'hui, un rassemblement massif à Alger, comme tous les vendredis. Ça ne suffit pas parce qu'ils veulent le départ de tous les autres, membres du clan.
De ce qu'ils appellent le système. Mmh. Ils veulent le démantèlement du système. Le système, c'est 4 pôles de pouvoir, et donc il y avait un compromis entre ces 4 pôles. Il y avait évidemment le président de la République, Bouteflika, sa famille, surtout son frère cadet de 20 ans, son cadet Saïd, son petit frère Nasser, et le bureau politique du FLN. Mmh. Ça, ces 2 pôles sont out aujourd'hui. Il reste 2 pôles qui gèrent la crise aujourd'hui. Le pôle de l'armée, le chef d'état-major, celui qui a lâché en rase campagne alors qu'il était l'homme, si vous voulez, le factotum presque du président de la République, le général Ahmed Gaït Salah, qui a près de 80 ans, qui est plutôt un pro-russe et un anti-marocain notoire, il faut se le rappeler. Ce qui ne plaît pas beaucoup d'ailleurs à une partie de l'Europe, des pays européens, et ça compte. Parce que quand je dis ça compte, évidemment, ça compte surtout en France, car c'est un dossier, si j'ose dire, algéro-français. C'est très important pour nous ce qui va se passer dans cette période de transition. Et puis il y a les services, services secrets, services de sécurité, c'est comme ça qu'on appelle l'équivalent de la DGSI, la police politique et les unités de gendarmerie, qui, il faut le remarquer et le rappeler, depuis maintenant 3 jours, perquisitionne, notamment à la Sonatrach, au bâtiment de la Sonatrach, qui est la direction générale des hydrocarbures, qui gère en quelque sorte la fortune de l'Algérie, et qui aussi a quasiment mis toute la famille en quasi-résidence surveillée. Donc, mais moi, je crois que même le chef d'état-major, celui qui a été clé dans la démission, lui-même partira. Il ne pourra pas rester chef d'état-major au moment de cette transition, puisque la foule est très claire, elle l'a été encore aujourd'hui, en masse. C'est une foule extravagante de puissance, d'ailleurs. C'est qu'ils dégagent tous. Et les généraux et l'armée craint de se retrouver face à des civils qui vont leur demander des comptes.
Et ce qui est marquant, c'est que ces manifestations restent totalement pacifiques, aucun incident signalé encore aujourd'hui.
Il y a eu effectivement, ce qui est formidable, 10 millions, au moins 10 millions de personnes, parce que c'est dans toutes les grandes villes. C'est pas seulement...
Doubler même les chiffres.
Oui, on dit 10 à 20 millions, mais alors personne n'a été voir, il n'y a pas de véritable...
Non, il n'y a pas
de comptage. Mais enfin, même
c'est
si
comme en France, c'est samedi, c'est ça.
Même si c'est que 10 millions, c'est quand même considérable. C'est quand même tout à fait considérable. Donc il y a deux forces. Il y a eu deux forces jusqu'à présent. Il y a la rue, cette force innombrable, donc des millions, et il y a l'armée. Et il y a eu effectivement le départ de Bouteflika, comme on dit maintenant.
Bouteflika.
Le départ, c'est la conjonction des deux. C'est-à-dire qu'il a d'abord fallu la pression formidable de la rue et qu'à un moment donné, le lâchage par l'armée. Une sorte de putsch interne qui fait que le chef d'état-major de l'armée lâche le président. Maintenant, on va avoir...
C'est un coup d'état, hein, à l'intérieur.
C'est un coup d'état, c'est un putsch. C'est pour ça que je dis putsch.
Tu as raison.
C'est le mur de Berlin.
Maintenant, on a donc deux forces qui sont face à face. Avec l'une qui continue à pousser très fort, le peuple, on l'a vu aujourd'hui encore, et l'armée, il y a des jeunes officiers qui sont probablement des jeunes soldats, etc. Ceux-là, ils sont probablement plus du côté du peuple, mais il reste des généraux à pré-bande. Parce que depuis 40 ans, il y a les généraux qui se sont goinfrés sur le pays, ils ont été les pré-bandiers du pays. Et ceux-là, il y en a quand même parmi eux qui ne voudraient pas lâcher.
Disons qu'ils ont profité d'avantages financiers.
Ouais, voilà. Ceci étant la rue algérienne, alors c'est une rue... c'est intéressant, ce sont des gens beaucoup plus politiques que bien d'autres pays du Maghreb. Ils sont bien plus politiques parce qu'ils sont restés longtemps plus français. Donc ils ont acquis comme ça une espèce de culture. Bon, alors ils l'ont peut-être, et ils sont d'ailleurs très sympathiques.
Même s'il y a beaucoup de jeunes dans la rue.
Et ça explique que les femmes et les hommes de la rue ne fassent pas de bêtises, ne commettent pas des erreurs. Bon. Mais maintenant, entre le passage de la rue à la représentation de la rue, il faut des assemblées constituantes, il faut un conseil constitutionnel qui ne soit pas mis en cause. Bon, c'est-à-dire que la force de la rue ne suffit pas à balayer les gens.
C'est ça qui est le plus compliqué. Et la question aujourd'hui, c'est qui peut assurer la transition si tous les organes actuellement au pouvoir ne sont pas indépendants ni... incontestable.
Ils sont tous, surtout, il faut dire, les ravages de la prévarication en ce pays ont été terribles.
Il y a beaucoup de gens qu'on entend, d'ailleurs, on en a entendu un certain nombre sur les radios, les télés françaises. Il y a des gens, des avocats, des profs de droit.
Surtout un avocat qui a toute la sympathie de la foule, c'est Mustapha Bouchachi, qui est un homme qui appartient au même parti que l'un des chefs de la révolution du FLN de 1954-56, Hossein Aït Ahmed, c'est le Front Socialiste, et qui est président de la Ligue des Droits de l'Homme en Algérie, et Mustapha Bouchachi, qui pour l'instant ne veut absolument partie de l'équipe de transition.
Ils ne veulent pas se mettre trop en avant, parce qu'ils ont
raison.
C'est normal, ils ont peur. Vous savez, on a bien vu la Révolution française, on a vu que les premières couches se sont fait balayer par la deuxième couche et la troisième couche.
Ils sont toujours ceux qui montent les premiers sur l'échafaud.
Ça a pris 4 ans chez nous, ça avait pris 4 ans entre 89 et 93, mais en Algérie, le problème, c'est que maintenant, on est à un temps où il faut que ça aille vite. Il faudrait que ça se résolve dans les 3 mois qui viennent. Et comment faire surgir, comment accoucher de la révolution des centaines, parce que c'est des centaines, de gens qui prennent possession de tous les leviers de commande, qui ne soient pas mouillés par le règne des...
C'est en cela que la France est concernée par ce qui se passe en Algérie. Si le désordre y règne, il est vrai qu'il y aura sûrement... des gens qui voudront rejoindre la France, et c'est, ce sera leur destination presque intellectuelle de toujours, donc ça pose un problème. Et en même temps, on ne peut pas miser évidemment sur le désordre, et on peut peut-être faire assez confiance à la maturité du peuple algérien pour essayer de mettre tout ça dehors.
Il faut faire émerger des leaders, il n'y a pas de leaders dans les manifestations.
Il y a des leaders.
Ils se cachent, ils se planquent, mais il y a des leaders.
Il y a des leaders qui restent discrets, qui ne veulent pas apparaître parce qu'ils redoutent, ils savent, ils connaissent les enseignements de l'histoire auxquels Gérard a fait allusion. Ils savent très bien que toutes les révolutions comportent de ceux qui sont au premier rang et qui montent, si vous voulez, sur le trône en quelque sorte, mais qui disparaissent très vite dès lors que ça se stabilise. Mais il y a quelque chose, moi, que je voudrais ajouter, si j'en ai le temps. C'est que depuis le 22 février, début de la mobilisation gigantesque des Algériens, une partie de la classe politique française et une partie de la presse dénoncent le danger islamiste en embuscade de ceux. Je ne partage pas du tout cette analyse. Pour une raison simple, c'est que depuis les années noires de 90-92 avec le FIS, le Front islamique du salut, etc., les partis islamistes comme ceux de l'opposition ont raté le train, si vous voulez, de la réforme et de l'éviction
grâce
de Bouteflika.
Grâce à qui les a combattus? Bouteflika.
Peuple.
Et Bouteflika.
Et c'est, oui.
Voilà, c'est ça l'histoire, l'infortune de l'histoire.
On aura l'occasion d'y revenir dans les semaines qui viennent, dans cette crise algérienne et cette transition qui commence et qui va se poursuivre dans les mois à venir. Merci beaucoup, les grandes voix, Michel Cotta, Gérard Carrère ou Charles Villeneuve, d'avoir été ce soir nos grandes voix dans votre grand journal du soir. Bonsoir, Émilie Mazoyer. Bonsoir, Émilie Mazoyer.
Oui, pardon, j'avais pas ouvert mon micro. J'étais tellement contente de vous dire coucou Sébastien Krebs.
Comment ça va? Ça commence à sentir le week-end.
Ma voix est allée plus vite que mon doigt, et cette phrase est bizarre. Et oui, ça commence à sentir le week-end.
J'ai une nouvelle pour vous, Mick Jagger va très bien.
Oui.
Il a tweeté tout à l'heure.
Il a tweeté, c'est bon, tout va bien.
Il a été opéré.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on écoute ce soir?
Alors, du coup, on n'écoutera pas les Stones, et c'est une bonne nouvelle. Et on va plutôt écouter une nouvelle chanson, toute neuve, de Féfé et Leroy, qui étaient ensemble dans le Saiyan Supakru, vous vous souvenez?
Ah oui.
Après 10 ans, chacun de leur côté, à faire de jolies carrières solo respectives, ils reviennent ensemble. L'album ne sort que dans quelques semaines, mais on a des petites exclusivités pour vous ce soir. Ils vont vous raconter tout ça.
Et on vous retrouve dans un instant, Émilie Mazoyer, pour une soirée en musique. À tout à l'heure. Je vous souhaite une très belle soirée et un très bon week-end. Vous retrouverez Philippe Vandel pour votre grand journal du soir tout le week-end. Et bien sûr, Mathieu Béliard revient lundi. Très bon week-end. Bon week-end, Ombline.
Merci, bon week-end, Sébastien Krebs. Dans un instant, l'information avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Europe 1.